Voilà, bonjour bien-aimés. Nous
Bonjour.
bénissons le Seigneur pour sa grâce. La bienveillance de Dieu est notre salut. Sa bienveillance est sur tous ceux qui l'écoutent, n'est-ce pas? J'écouterai ce que dit Dieu, car il est bon pour qui l'écoute. Car il est bon pour qui l'écoute. L'avons-nous écouté cette année? Je pense que oui. Sinon, nous ne serions pas là dans cette salle ce matin, n'est-ce pas? L'avons-nous écouté comme il le faut? Chacun de nous peut y répondre pour lui-même. L'avons-nous écouté comme il aurait souhaité? C'est une grande question, n'est-ce pas? Parce que nous ne savons pas toujours comment le Seigneur voudrait qu'on l'écoute. Non, ce n'est pas vrai. Nous savons comment il voudrait qu'on l'écoute, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous sommes toujours sensibles à bien entendre ce qu'il nous dit? C'est là la question. Heureusement que le Dieu dont nous parlons est un Dieu de grâce. Sa grâce est suffisante et qu'il sait que nous sommes des êtres humains parce que c'est lui qui nous a créés et qu'il sait que malheureusement dans notre histoire humaine, le péché est intervenu et que ce péché nous a un peu tordus, nous a un peu rendus dus d'oreilles, nous a un peu rendu dû de digestion de la parole de Dieu. Et voilà que nous sommes au bout d'un parcours d'une année. Dimanche après dimanche, nous avons été là. Tant que nous n'avons pas été empêchés par la santé, par l'activité professionnelle, par la famille, ou en cette année 2020 par le Covid, nous avons été dans la présence de notre Dieu. Et nous pouvons nous en féliciter. Nous pouvons dire merci Seigneur pour la force que tu m'as donnée dimanche après dimanche de participer à ce culte qui n'est pas juste un acte religieux. Non, le culte que nous rendons à Dieu fait partie de notre identité. Dieu est notre Père. Et l'une des façons de communier dans cette famille de Dieu, c'est aussi de vivre le culte dans l'Église. C'est une institution que Jésus nous a laissée. C'est lui qui a fondé l'Église et c'est lui qui a donné la mission à l'Église de continuer non seulement de proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle, mais de faire en sorte que dans toutes les nations, cette bonne nouvelle soit annoncée et que tous ceux qui ont accepté cette bonne nouvelle se laissent transformer dans le projet de Dieu, n'est-ce pas? J'aimerais ce matin nous entretenir sur ce que j'ai déjà dit. Quelquefois, quand je réfléchis à comment encourager l'Église à la fin de l'année, je me retrouve à revenir à quelque chose que j'ai dit en début d'année. En début d'année. Et donc là, aujourd'hui, je vais redire un message en l'actualisant aujourd'hui sur quelque chose que je vous ai déjà dit le 22 septembre 2019. Au culte de rentrée du 22 septembre 2019. Vous savez que l'une des choses qu'on a mis en place, le conseil et moi, c'est de vous proposer des objectifs en tant qu'Église, mais en tant que chrétien. Et depuis 2018, nous avons fixé 5 objectifs. Et j'essaie de les rappeler année après année pour que nous n'oublions pas. Parce que vous savez que Dieu est un pédagogue et que dans la pédagogie de Dieu, Dieu fixe des objectifs. Hein? Et ces objectifs, il les marque, comme la parole le dit, au temps marqué. Hein? La Bible dit qu'au temps marqué, Christ est rentré dans le monde. Ça veut dire que l'objectif de Dieu était qu'à ce moment-là, Jésus, fils de Dieu, vienne dans le monde et qu'il vienne pour accomplir sa mission. Et ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Je vous avais parlé avec le conseil, vous avez donné des perspectives, en tout cas pour les 5 années qui venaient depuis 2018. Et nous avions proposé 5 objectifs pratiques de vie de notre Église et de vie chrétienne. Le premier, c'était un amour de qualité. Le deuxième, c'était un enseignement de qualité. Le troisième, une prière de qualité. Le quatrième, un accueil de qualité. Et le cinquième, une présence de qualité. Et je vais revisiter ces textes bibliques avec vous pour nous encourager. Pas que, pour qu'aussi chacun de nous puisse faire le point. Hein. C'est bien que c'est un symbole en fin d'année qu'on fasse le point, mais au-delà du symbole, il faut le prendre vraiment au mot. Parce qu'il y a des moments comme ça dans la vie où on peut se dire, OK, tout va dans le même sens et tout va dans le sens où je peux m'asseoir pour faire un point. Et le point que je vous invite à faire, ce n'est pas un point qui va vous affaisser. Non, c'est un point qui va vous dire, waouh, jusque-là, je suis arrivé à ici. Merci Seigneur. Mais je vois que tu veux que j'aille plus loin avec toi. Quelle est la prochaine étape? Hein? C'est ça que moi j'appelle un bilan. Un bilan, ce n'est pas juste de dire, ah, oh, ça j'ai mal fait, ah, ça j'ai raté, oh là là, ça n'a pas été du tout. Oh, quelle catastrophe cette année. Si un chrétien dit ça à la fin de l'année 2020, il n'aurait pas raison. Parce que dans cette année 2020, le Covid était là, il y a eu des morts, frère. Il y a eu des morts, sœurs. Il n'y a pas que les personnes de troisième âge qui sont parties. Les gens de tous âges sont partis. Un peu moins des jeunes, un peu moins des enfants, mais quand même. En dehors du Covid, chaque année, Dieu rappelle à lui tel ou tel. Et nous sommes encore là. C'est vrai qu'il reste encore quelques jours, mais jusque-là, le Seigneur nous a secourus et bénis. Et donc, si vous faites un bilan, commencez par être positif. J'ai le souffle de vie, gloire à Dieu. Je suis vivant, gloire à Dieu. Même si je suis malade, je suis vivant. Même si je souffre, j'ai le souffle de vie. Et le Seigneur, mon Dieu, dans ma souffrance, m'a porté, m'a tenu la main. Ça n'a pas été ça. Et si vous n'avez pas eu de maladie, bah, dites merci Seigneur. La Bible dit c'est une grâce de Dieu que personne de nous ne mérite la bonne santé. Et quand tout va bien, on ne peut pas dire c'est mes propres efforts. Oui, c'est tes efforts, mais c'est aussi la grâce de Dieu. Parce que le capital santé, qui sait quand il est touché? Qui sait quand il est entamé? Personne de nous le sait. Qui, au détour d'une rencontre ou d'une visite quelque part ou dans un endroit, a chopé un virus, une bactérie, qui sait? Et tous nos frères, toutes nos soeurs, toutes les personnes qui sont atteintes de cancer, on n'arrive jamais à situer à quel moment la personne a eu ce cancer. Quand ça a commencé, où est-ce qu'elle a contracté? C'est toujours la question la plus difficile dans ces maladies incurables. Mais comment je l'ai contracté? Mais où je l'ai contracté? On ne sait jamais, bien-aimé. À la fin de l'année, comme celle-ci, disons merci Seigneur. Tu as été là. Tu as été bon pour moi. Je suis en vie.
Oh,
Vous savez, quand je me réveille les matins et que je vois ma famille, je dis merci Seigneur. Je dis merci Seigneur parce que je ne dors pas la belle étoile. C'est une grâce de Dieu. Il y en a qui font tous les efforts, mais qui malheureusement dorment à la belle étoile. Ne croyez pas que tous ceux qui sont vierges, c'est parce qu'ils ont voulu. Il y a des circonstances de la vie, qui échappent parfois et qui entraînent des situations compliquées. Et quand vous n'avez pas cette situation compliquée, vous pouvez dire, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a des gens qui, du l'autre bout du monde, prennent des risques pour venir ici en Europe. Ce qu'on appelle des immigrés. Plusieurs meurent dans les eaux avant d'y arriver. Et plusieurs qui débarquent avec la déception de ne pas pouvoir réaliser ce qu'ils pensaient réaliser. Et qui se retrouvent dans des situations compliquées. Et je vous en avais parlé de cette personne que j'ai rencontrée ici à Créteil, avec qui j'essaie d'avoir un lien et pour lequel je bénis Dieu. Je vous avais demandé de nous aider pour que notre diaconat puisse accompagner cette personne. Et merci pour toutes les familles qui ont aidé pour ce diaconat. Nous avons pu faire un geste à cette personne cette semaine. Cette personne est en asile politique, loin de sa famille. Elle m'a dit qu'elle a dû fuir son pays parce qu'elle était d'un bord politique qui n'était pas celui du gagnant et sa vie était menacée. Et cette personne m'a dit qu'elle a laissé enfants et famille pour fuir. Elle se trouve là en attente que son dossier soit traité et qu'une réponse soit donnée à son asile. Elle est bien démunie, cette personne. Donc, vous voyez, il y a de quoi dire merci, Seigneur. Parce que finalement, la santé que tu m'as donnée, finalement, le parcours scolaire que tu m'as donné, finalement, le parcours de famille que tu m'as donné, m'amène jusqu'ici, mais c'est ta grâce, là encore. C'est ta grâce. Combien de gens ont essayé d'être, d'avoir une position sociale, ils n'ont pas pu. Pas faux d'avoir essayé. Et quand nous réussissons, nous pouvons dire merci Seigneur parce que tu as disposé telle situation, parce que tu as disposé tel état des faits, parce que tu as conduit telles actions, parce que tu as conduit ma famille dans telle orientation. Merci Seigneur. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est bon pour qu'il écoute. Ta bienveillance, ô Éternel. Ta bienveillance, ô Éternel. C'est pour cela que ce matin, je vais nous rappeler ces cinq points en nous invitant à faire le bilan. Si l'Éternel a été beau pour nous, comment nous pouvons être reconnaissants à ce Dieu-là? Si ce n'est que de nous conformer à sa parole. Si quelqu'un est bon pour nous, comment pouvons-nous le remercier? L'apôtre Jean dit, Dieu est un pur esprit. Il s'est manifesté, c'est vrai, en Jésus-Christ, mais depuis Jésus est monté au ciel et l'esprit de Dieu il est là, mais il est esprit, donc il est invisible, on ne le voit pas. Donc il dit, ce Dieu que vous ne voyez pas, mais qui est présent, comment pouvez-vous l'aimer? Bah, il dit, l'amour de Dieu, c'est dans le concret. C'est dans des choses concrètes. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Où nous en sommes, nous, avec notre reconnaissance à Dieu? Le texte de base sur lequel je m'appuie pour proposer toutes ces choses, c'est celui de Actes chapitre 2, versets 46 à 47. La Bible dit que chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Au début de l'Église, nous sommes au tout début du départ de Jésus au ciel et de l'activité des apôtres, avec cette grande prédication le jour de la Pentecôte, 3000 conversions, et l'Église a commencé comme ça. Et ces 3000 personnes, c'est d'eux qu'on parle dans ce texte de Actes chapitre 2. Cette Église naissante, chaque jour, elle persévérait. Elle se retrouvait, comme nous, les dimanches, d'un commun accord. Autant, elle partageait la nourriture dans les maisons, ce que nous on peut appeler des cellules de maison, hein, ou des groupes de maison. Et ils le faisaient avec joie et avec une certaine humilité les uns envers les autres, une certaine simplicité du cœur. Ils aimaient louer Dieu. Louer Dieu, c'est ce que nous faisons quand nous venons au culte. Nous le louons, nous le célébrons. Louer Dieu, c'est dire les bienfaits de Dieu. Hein. C'est le célébrer pour ce qu'il fait dans la vie de l'humanité et dans nos vies individuelles. Et le texte dit qu'ils avaient la faveur du peuple. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Chaque jour, par rapport à cette action de témoignage vivant de l'Église, tu ajoutais chaque jour à cette communauté ceux qui étaient sauvés. Une Église a besoin d'une vision, un cadre qui nous réunit tous, dans lequel nous nous reconnaissons tous et avec lequel nous nous donnons la main pour avancer ensemble. Et parce qu'on avance ensemble, chacun individuellement avance aussi. Et c'est pour cela que nous faisons l'effort, année après année, de vous partager cette perspective, cette vision, et à l'occasion de vous la rappeler, pour que nous soyons tous unis. Trois aspects de nos vies doivent être toujours impactés par notre vie chrétienne et par notre vie d'Église. Pourquoi croyez-vous que Dieu se plaît à continuer à sauver des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des enfants? Pourquoi? Parce que Dieu a un projet. C'est lui qui est le créateur. Dès la création, son projet, il était clair. On le voit dans Genèse. Lorsqu'il crée l'humanité, il crée la création, ensuite l'humanité, il confie cette belle œuvre d'art à l'homme. Il dit, jouis-en et prends-en soin. Hein, c'est ce qu'on peut dire dès le départ, ton petit paradis. Hein, sois heureux. Je t'ai créé pour que tu sois heureux, pour que tu jouisses de ces choses, pour que tu t'épanouisses. Et puis, patatrac, le péché est arrivé. Dieu se plaît à ce projet, parce que le péché a terni le projet de Dieu, a terni l'homme créé en image de Dieu. Et Dieu, depuis, avec la venue de Jésus, essaie. Non, il continue son projet. C'est pour cela que quand il nous rencontre, il veut toucher notre caractère. Notre caractère, il veut transformer notre caractère pour que ce caractère, il fasse quoi? Il soit à l'image du Christ. C'est quoi le caractère? C'est la vie intérieure, c'est les habitudes personnelles, c'est l'attitude du cœur, c'est la consécration à Dieu, c'est la consécration dans son église, c'est la consécration à sa famille. Toutes ces choses, Dieu les modèle en nous. Il touche aussi nos compétences. Nos compétences, c'est quoi? C'est que finalement, en nous formant, cette formation par rapport à la parole de Dieu doit nous donner des applications concrètes dans la vie de tous les jours. Je dois être compétent dans mon rôle d'époux, compétent dans mon rôle d'épouse, compétent dans mon rôle de parent. Parce que quand on parle de compétence, parfois on voit tout de suite le milieu séculier professionnel, n'est-ce pas? Non. Il y a des compétences à acquérir. Être papa, ce n'est pas un caractère. C'est une responsabilité. Et il y a une compétence à avoir. Être épouse, bah, c'est une grâce. Mais ce n'est pas un caractère. Il y a une compétence à avoir. Et le Seigneur a déroulé tout ça, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu sert à ça. Et la connaissance, donc c'est le troisième axe, la connaissance justement, elle est là pour nous aider. Une connaissance solide des Bibliques pour mieux faire quoi? Mieux cerner la volonté de Dieu, mieux comprendre la parole de Dieu, parce que c'est celle-là. La Bible dit que la source de la vie découle de la parole de Dieu. C'est de cette parole que jaillit les sources de la vie. Alors, si on veut être des bons vivants, pas dans le mauvais sens du terme, parce que vous savez, bon vivant, vous savez ce que ça veut dire. Hein? Bon vivant, ça veut dire c'est un levé le coude, quelqu'un qui boit beaucoup et qui est toujours joyeux, qui fait la fête chaque temps. Bon vivant, selon Dieu, c'est celui qui a compris la bienveillance de Dieu, qui veut vivre dans le plaisir que Dieu a donné aux hommes. Et le vivre bien. Parce que parfois, on a trop fait de parler de l'évangile en négatif. Dès qu'on parle de la Bible, c'est les commandements. Dès qu'on parle des commandements, on voit ce qu'il ne faut pas faire. Mais ce n'est pas ça d'avoir les commandements de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire pour être heureux. C'est ça d'avoir les commandements de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? C'est en marchant selon la voie de l'éternel. Sous la lumière de la parole de Dieu. Donc, le projet de Dieu n'est pas un projet de ne fais pas. Le projet de Dieu, c'est j'ai un projet de vie pour toi. Il dit, je mets devant toi la mort et la vie, mais choisis la vie. Il y a la malédiction et la bénédiction. Choisis la bénédiction. Et la première de ces bénédictions, le premier axe du projet de Dieu, c'est l'amour. Dieu a un projet d'amour. Est-ce que en tant que chrétien, ta vie, quand tu penses à ta vie comme étant un projet d'amour. Hein? Nous tous, on le dit, les jeunes un peu plus, ils disent, j'ai des projets, j'ai des projets. Et Dieu dit, il a un projet. Son premier projet pour toi, c'est que tu vives une vie qui soit bénie dans l'amour de Dieu. Que tous les domaines de ta vie soient éclairés, alimentés, ressourcés par l'amour de Dieu. 1 Jean chapitre 4, versets 11 à 12. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Personne n'a vu Dieu. Dans le sens où Jésus est monté au ciel, le Saint-Esprit il est là, mais concrètement, je ne le vois pas visuellement. Mais je vois l'action de Dieu. Je vois la manifestation de Dieu. Le fait que je sois là, ça montre qu'il existe. Parce qu'à un moment donné, même s'il est passé par des messagers humains, il m'a adressé sa parole à laquelle j'ai répondu et j'ai vécu quelque chose de personnel avec ce Dieu. C'est ce qu'on appelle la conversion. Il a ouvert mon esprit sur l'écoute de cette parole. Il m'a montré qu'elle était vraie. Mon cœur a été saisi. Mon intelligence s'est ouverte et ma raison a dit, ce que Dieu te dit, c'est vrai. Et depuis, je fais ce chemin avec lui. Et c'est le cas de la plupart d'entre vous, n'est-ce pas? Si Dieu est ainsi bon, comme je l'ai dit au début de ce message, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend que nous nous aimions les uns les autres. Le Seigneur est présent en nous et il a dit, comment les hommes sauront que je suis en vous, que je suis avec vous? C'est par l'amour que vous allez vivre. Il dit, de par l'amour que vous allez vivre, que vous allez démontrer, le monde saura que vous êtes des enfants de Dieu, que nous sommes des enfants de Dieu. Et j'aime parfois prendre le verset dans l'inverse. Ça veut dire que si les chrétiens ne vivent pas l'amour de Dieu, le monde ne verra pas que Dieu est présent. Si les chrétiens ne vivent pas l'amour de Dieu, le monde ne saura pas que Dieu est présent. Un amour qui ressemble à celui de Dieu, qui ne se satisfait pas, ou qui se satisfait que lorsque les gens se tournent vers Jésus pour trouver le pardon et la vie en lui, c'est de cet amour qu'il s'agit. Un amour qui nous pousse à continuer à connaître cette vérité de Dieu qui nous transforme pour que justement le salut qui nous a atteint puisse atteindre les autres. Parce qu'ils nous verront vivre ce salut de Dieu. Parce que dans le salut que Dieu nous a donné, ils verront des actes d'amour que nous posons vis-à-vis d'eux. Jésus dit, si vous ne croyez pas mes paroles, mais croyez à cause des œuvres que vous m'avez vu faire. Il dit, j'ai manifesté de l'amour parmi vous. Donc, même si vous laissez tous mes enseignements de côté, regardez mes œuvres, regardez comment j'ai vécu parmi vous, regardez tout le bien que j'ai fait jour après jour à chacun, à chacune. C'est pour cela qu'il a pu dire en Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui. Le mot perfection ici n'est pas le mot perfection selon notre conception. Ce n'est pas un état abouti de choses, non. Il dit, vu que Dieu vous dit que c'est possible d'aimer et d'aimer même ceux qui ne nous aiment pas, bah, essayez, vous allez voir. Puisque lui qui est Dieu, même les gens qui l'insultent, même les gens qui disent qu'il n'existe pas, même les gens qui blasphèment contre lui, il les laisse réussir dans la vie. Si Dieu châtiait tous ceux qui ne croient pas en lui, franchement, ça serait terrible. Hein? Nos pays dits occidentaux qui sont dits des pays post-chrétiens, athées, et pourtant, il y a une prospérité, il y a une stabilité, il y a une paix. C'est parce que Dieu est un Dieu de grâce. Parce que Dieu est ton Père bien-aimant. Parce que comme il est dit ici, il fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. C'est-à-dire qu'il fait grâce à qui il veut. Parce que Dieu, il se dit, toujours donner une chance. Toujours donner une opportunité. Jusqu'à ce que l'heure de son rappel vienne à moi, toujours donner une opportunité. Et pourtant, dès qu'il y a un petit bobo, bah, Dieu, votre Dieu, Dieu, il est quand même méchant. Et on a oublié toute la stabilité qu'on avait depuis tant d'années. Dès qu'il y a un pépin, oh, si Dieu existait, pourquoi le mal? Bah, bien sûr, si Dieu existait, pourquoi le mal? Comme si c'est lui qui est l'auteur du mal. Bien-aimé, la Bible dit que vu que Dieu est un Dieu qui est capable de nous donner la force d'aimer même nos ennemis. Mais commençons par aimer ceux qui ne sont pas nos ennemis, alors. Hein? Il est capable de nous donner la force d'aimer même nos ennemis. Est-ce que, en cette fin d'année 2020, tu es sûr que tu fais le maximum que tu dois faire pour aimer ceux qui sont proches de toi? C'est ça la première question. Avant même d'aller vers ton ennemi, est-ce que je donne l'amour qu'il faut à mon épouse, à mes enfants, à mes frères, à mes soeurs? Est-ce que j'ai encore des conflits larvés que je n'ai pas réglés? Est-ce qu'il y a encore des disputes non résolues? Est-ce qu'il y a encore un pardon que j'aurais dû donner jusque-là que je n'ai pas encore donné parce que sans titre, c'est plus fort que moi? C'est de ça qu'il s'agit. Nos objectifs sont des objectifs concrets, pratiques. L'amour de Dieu est un amour pratique. Ce n'est pas un amour théorique. Oh, bien-aimé, je t'aime. Ça, c'est bien. C'est de bonnes paroles. Elles sont utiles, ces paroles-là. Il faut que ces paroles soient concrètes. Elles soient réelles. Elles soient pratiques, bien-aimé. Et ça commence chez nous. Ça commence dans la cellule familiale. Nous rassurer que nous communiquons non seulement de bonnes valeurs d'amour à ceux qui sont dans notre maisonnée, mais qu'ils le voient aussi en nous et qu'ils voient les progrès que nous faisons année après année. L'expression nulle n'est parfaite, elle est une expression piège. Parce que parfois ça veut dire on ne va jamais y arriver. Et ces expressions-là, il faut essayer de les élaguer. Il faut juste dire, oui, la Bible dit, tendre vers la statue parfaite du Christ. Ça veut dire que c'est un processus et que ce processus, je veux m'y inscrire durablement. Je veux continuer de tendre vers ça. Je ne veux pas m'arrêter. Et même si je tombe, je veux me relever et repartir de plus belle. Qui de nous, lorsqu'il échoue parce qu'il a un projet professionnel ou scolaire, dit ça va, je ne fais plus d'efforts. Dès que nos enfants nous disent ça, qu'est-ce que tu racontes? Assieds-toi. Mais tu as du potentiel. Arrête un peu. Parce qu'on voit que l'enfant a du potentiel, mais que cet échec l'a tellement marqué qu'il ne veut plus se relever. Et nous, les parents, qu'est-ce qu'on fait? On est tout pour l'encourager, pour le motiver, pour le relever. Bah, Dieu, c'est pareil avec nous. Dans les questions d'amour, c'est pareil. Parfois, on abandonne. Parfois, on dit toujours la même chose. Surtout les époux et les épouses, hein, on aime dire ça. Hein. Oh, mais tu fais ça chaque année et t'arrêtes pas. Quand est-ce que tu vas changer? Bah, écoute, quand est-ce que je vais changer? Je pourrais dire aussi pareil pour toi, ma chérie. Quand est-ce que tu vas changer? Et quand c'est comme ça, c'est un point de friction. Parce que chacun regarde à l'autre. Mais parce que finalement, on est tous les deux des pécheurs. Et qu'on est tous les deux en progrès, ma chérie. Mon chéri, c'est ça qu'il s'agit. Et nous, les parents, alors vis-à-vis de nos enfants, c'est pareil. C'est des enfants. Ils grandissent. Parfois, ils grandissent bien. D'autres fois, faut mettre quelquefois des points ou des virgules. Mais c'est normal. Ils doivent apprendre. Même si parfois ils croient qu'ils savent tout. Mais nous aussi, hein, à un moment donné, on pensait aux parents, on savait que les parents savaient moins que nous, hein, n'est-ce pas? C'est notre tour, les parents, aujourd'hui. Hein? Je ne dirais pas le renard passe-passe, mais quand même. Chacun son tour. Hier, nous étions enfants. Hier, nous étions jeunes. Aujourd'hui, nous sommes parents. Aujourd'hui, ils sont jeunes. Aujourd'hui, ils sont nos enfants, bah, demain, ils seront parents. Et nous devons leur donner les bons outils. Nous ne devons pas nous lasser. C'est notre amour. L'amour n'est pas juste un amour câlin. L'amour est un amour qui construit aussi. Et dans la construction, ça peut faire mal. Construire, ça peut faire mal. Mais c'est notre responsabilité de parents. Nous devons construire nos enfants, les aider à se construire. Pas toujours dans le sens qu'ils le voudraient. Ça serait facile. Parce que demain, ils nous le reprocheraient. Mais pourquoi l'autre ne m'a pas dit ça à l'époque? Ah bah, pourquoi l'autre ne m'a pas dit ça à l'époque? C'est gentil. Tu es sûr que tu allais écouter? Bah oui, j'allais écouter. Bah oui, avec du recul, tu allais écouter. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Si le moment, tu savais tout, tu connaissais tout, on ne pouvait même pas mettre le mot. Tu avais déjà tes réponses. Qu'est-ce qu'on pouvait dire? Non, à nous toujours de dire et de montrer. Après, quand ils sont adultes, ils décident, mais au moins, on leur montre, on leur dit. Que Dieu nous aime. Pour ceux qui ont des grands enfants, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué parce que voilà, ils ont atteint la maturité, ils ont commencé à avoir leurs expériences de vie. Et parfois, dans des environnements qui ne sont pas les nôtres, Donc, du coup, c'est vrai que c'est très difficile de donner conseil, mais la Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Et ça, c'est un conseil que je donne à ceux dont les enfants sont des adultes ou des jeunes adultes. À un moment donné, soyez sages en tant que parents. Ce n'est pas des relations simples, mais soyez sages. Là, on parle d'amour. Un amour qui construit l'autre. Mais un amour qui dit, c'est un adulte. Fais ses choix. Savez, si Dieu devait descendre à chaque fois pour dire à un chrétien, là, tu vas dans l'erreur, on serait bien reconnaissant pour ça, hein? Mais Dieu juge qu'on est des adultes. Et que s'il nous a parlé, il nous laisse l'action. Ce qu'il attend, c'est que si on se trompe, il attend au moins qu'on revienne vers lui. C'est ça qu'il attend. Mais il nous donne même la possibilité de nous tromper. Parce qu'il nous respecte dans ce que nous sommes. Nous sommes des êtres qu'il a créés, certes liés à lui, mais indépendants. Dieu nous respecte. Et c'est ce que les gens appellent la faiblesse de Dieu. Non, Dieu est un Dieu. La Bible dit, quand quelqu'un dit quelque chose, il le respecte. Il nous a créés comme ça, il respecte sa part. Mais il nous donne des opportunités lorsque nous avons fait le mauvais choix de revenir vers lui. Et lui, il est toujours prêt à nous reprendre en main, pour nous rediriger. Et c'est ce que je vous... Et c'est à cela que je vous encourage, vous qui avez des enfants qui sont des jeunes adultes, laissez-les vivre leur vie. Qu'ils n'aient pas l'impression que vous les irritez à chaque fois. Parce que parfois, ça ressemble à ça. Moi qui travaille avec eux, je peux vous dire que parfois, quand ils me parlent de leurs parents, si... mais ils n'écoutent pas les parents. Je dis, mais si, non. Bref, l'amour bien-aimé, regardez à ces choses. Je parle dans des détails parce que pour moi, c'est important ces détails. Parce que c'est là que Dieu veut que nos vies soient dans le concret de l'amour. Et puis, je ne parle pas de l'amour dans l'Église, mais ça, vous le savez. Nous avons encore du travail parce que nous progressons. Un enseignement de qualité, il s'agit de la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 5. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit, je le connais sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. 1 Jean, chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 6. Et là, j'ai dit verset 5 parce que c'est celui qui dit, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes à lui. Garder la parole de Dieu dans le sens du thème que l'apôtre Jean nous communique, c'est chercher à comprendre cette parole pour qu'elle devienne compréhensible pour moi et que je puisse la pratiquer. C'est ça, garder. Garder, ce n'est pas juste connaître une leçon par cœur. Pour Dieu, connaître les choses par cœur, c'est une étape, mais ce n'est pas l'étape finale. Jésus disait souvent que celui qui a des oreilles pour écouter, entendre. Ça veut dire, si tu as écouté, bah, transforme cela non seulement en une écoute attentive, mais que ça débouche une pratique de vie. Comment pouvons-nous dire que cette parole est importante pour nous si nous ne la lisons pas, la méditons pas, l'étudions pas, si nous ne nous formons pas? Écoutez ce qu'a dit l'UNESCO. Hein, l'UNESCO, c'est une organisation internationale non chrétienne, mais qui gère toutes les nations. Et c'est le 18 février 2010. Et celle qui parle, c'était à l'époque la directrice générale de l'UNESCO, Madame Irina Bokova. C'était à l'occasion de ce qu'on appelait l'exposition La Bible, patrimoine de l'humanité. Et c'est son discours qui a été très célèbre et qui est un discours qui reste dans l'histoire de notre monde. Elle dit, je suis très honoré de vous accueillir ce soir au siège de l'UNESCO. Et c'est avec joie que je déclare ouverte en ONU, la captivante exposition consacrée à la Bible, patrimoine de l'humanité. Je suis heureuse que notre organisation se fasse l'écrin d'un texte millénaire auquel continue de puiser à travers le monde un nombre considérable de chercheurs, de croyants, de lecteurs et d'érudits. La Bible, comme les autres textes religieux fondateurs, offre tout ce qui élève, tout ce qui rapproche de la dignité. En dépit de toutes les heurts au cours des époques successives de l'histoire, la Bible défie le temps, car les textes sacrés sont intemporels. Ils portent à travers les siècles la force de la pensée et de la parole consignée. Ce sont des œuvres si puissantes, érigées par l'esprit de l'homme, que nul ne peut les arracher. Selon les approches, la lecture de la Bible permet de retirer un sens de l'histoire, d'approcher une source spirituelle de l'humanité. Mais la Bible en chasse aussi des qualités profondes, littéraires, philosophiques, poétiques, intemporelles. Elle a fait naître des expressions artistiques multiples et admirables. Elle lie à la foi, mais aussi au savoir. L'influence de la Bible transcende les limites de la culture judéo-chrétienne. Ce qui lut ce soir, la présence hautement symbolique des dignitaires des cinq religions, juifs, protestants, catholiques, musulmans et orthodoxes. Dans la sagesse de Salomon, on peut lire, et je cite, la sagesse est brillante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse facilement contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent, elle prévient ceux qui la désirent en se faisant connaître la première. Qui se lève tôt pour la chercher n'aura pas à peiner. Il la trouvera assise à sa porte. C'est non chrétien. Enfin, je ne sais pas si elle est chrétienne, mais en tout cas, elle parle au nom d'une organisation non chrétienne. Elle dit tout cela dans la Bible. Bible, patrimoine de l'humanité. Donc, si dans le monde, les gens considèrent que la Bible est un patrimoine de l'humanité, que c'est un texte intemporel, ça veut dire qu'il traverse tous les temps. Qu'en faisons-nous, nous qui sommes les premiers destinataires de ces paroles? C'est vrai que parfois, étudier la Bible, faire des études ensemble, se former ensemble, parfois c'est un peu compliqué. Parce que soit on a une mauvaise expérience de la formation, soit on estime qu'on n'en a pas besoin parce que l'Esprit de Dieu va tout nous dire. Mais ce n'est pas vrai, les bien-aimés. Tu as vu les apôtres? Ils ont vécu 3 années. Joue pour jouer avec Jésus. Et pendant ces 3 années, Jésus les a formés. C'est ce qu'on oublie de dire. Ils ont été au bénéfice de l'enseignement de Jésus. À l'époque de Jésus était le symbole d'un rabbin. Donc le rabbin, c'est celui qui enseigne et il a des disciples. Ils n'avaient pas d'amphithéâtre comme chez nous, non. Le rabbin enseignait par les faits de la vie, où des fois, il prenait ses élèves à part et les enseignait. Et beaucoup de fois, si vous lisez l'évangile, vous allez entendre Jésus prit les disciples à part. On ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais on sait. Puisque dans la tradition, une fois qu'il les prend à part, c'est pour les enseigner. Et on a plusieurs discours comme ça dans les évangiles où il est en train de les enseigner par des paraboles, par des choses. Et il pose des questions, Jésus répond à la question. Donc, ils ont été instruits pendant 3 années. Et quand Jésus a estimé qu'ils étaient mûrs, il a dit, c'est l'heure. Il dit, montons à Jérusalem pour la dernière fois. Ça veut dire qu'il a estimé qu'il a enseigné ce qui était nécessaire. Et l'apôtre Paul dit pareil dans Actes chapitre 20, lorsqu'il parle aux anciens d'Éphèse, il dit, je vous ai pendant 3 ans, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Il dit, maintenant vous êtes prêts pour enseigner les autres. La formation est nécessaire, à tous les niveaux, qu'on soit jeune, moins jeune, la formation, oublie, on ne finit jamais d'apprendre la parole de Dieu, car c'est un trésor inépuisable. Il y a un vieux missionnaire qui était au soir de sa vie. Il a dit le nombre de fois qu'il a lu la Bible, c'était impressionnant. Il dit, même malgré ça, je suis convaincu, au fond de moi, que je n'ai même pas puisé un petit pourcentage de toute sa richesse. Et ceux qui l'entendaient disaient, si toi tu dis ça, et nous alors? Et nous alors? Que Dieu nous aide. Cette parole est puissante. Elle est là pour nous. Elle est là pour que nous puissions. Nos sources, nos décisions, nos réflexions. Vraiment, la parole de Dieu est disponible et ce n'est pas un fait anodin. Dieu l'a rendue disponible pour que les chrétiens puissent y pêcher, creuser, chercher le trésor pour leur vie. Et tout cela, ça se fait dans la prière. Jésus dit en Matthieu chapitre 18, et c'est le troisième point, verset 19-20, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est un texte fondateur. C'est le texte que Jésus prend pour fonder l'action des apôtres. L'action de Pierre et des apôtres. Donc, avant le verset 19, ces apôtres, ils parlent, ils disent, Il dit aux apôtres, tout ce que vous allez décider, conduit par l'Esprit, ça sera accordé au ciel. Et puis, il généralise. Il dit, au-delà de tout chrétien, toute église où les gens sont en accord, sont en paix, et qui demandent quelque chose à Dieu, bah, Dieu entend. Et Dieu y répond. Certes, en son temps, mais Dieu y répond toujours. C'est ce qu'il dit. Pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Il n'a pas dit, elle sera peut-être accordée. Non. Il leur sera accordée. C'est une promesse. Pourquoi? Parce que c'est le Père. Dieu ne se dédie pas. Il donnera ce que ses enfants s'accordent à lui demander. Donc le texte dit bien s'accorde. Pourquoi? Parce que la notion de s'aimer les uns les autres, quand l'amour n'est pas au rendez-vous et que nous prions, en fait, nos prières ne servent à rien. Le texte, il est aussi littéral que ça, puisque au-dessus de, enfin, avant le verset 19 et 20, il parle de problèmes relationnels dans l'Église, des personnes qui ne s'entendent pas et qu'il faut régler les choses. Il dit, une fois que les choses sont réglées, si vous priez ensemble, Dieu, il écoute. C'est pour cela que quand nous venons prier, nous prenons toujours le temps de nous confesser devant Dieu, demander pardon à Dieu, pour que justement nos temps de prière soient écoutés de Dieu. Mais il n'y a pas que ce que nous demandons pardon à Dieu. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut les régler aussi. Il faut les régler parce que l'une des conditions pour que cette promesse soit accomplie, c'est être en accord, être uni, être dans une relation qui n'est pas entamée, mais qui est entière. Je me suis convaincu, en lisant les Écritures, que pardonner, ce n'est pas facile. Il y a des choses qu'on pardonne facilement. Et plus on prend de l'âge, plus on pardonne difficilement. Je me demande bien pourquoi. Je me demande bien pourquoi. Les enfants, ils sont fâchés la seconde d'après. Ils sont en train de rire aux éclats. C'est la maladie. Parce qu'une fois que le fait est accompli, les enfants passent à autre chose. Nous, les adultes, même quand c'est réglé, on a du mal à passer à autre chose. Pourquoi? Pourquoi? Et on ne se rend pas compte que c'est un obstacle dans la prière. Et malgré ça, on prie. Dieu, il est bien. Mais en fait, il nous écoute sans nous entendre. Parce que Dieu ne peut pas déroger à ses propres principes. Et un missionnaire très célèbre disait, ce genre de prière, en fait, ça ne dépasse pas le plafond. Avec toute l'émotivité que vous mettez dedans, en fait, ça n'arrive pas à Dieu. Parce qu'il y a un principe que vous n'avez pas mis en place. Vous n'avez pas réglé quelque chose. Que Dieu nous aide. C'est pour ça que les relations, l'amour, le pardon sont si importants. Parce que c'est une condition sine qua non pour que la prière soit entendue de Dieu. Et le Notre Père nous donne justement un modèle de prière, n'est-ce pas? Si un chrétien ne sait pas prier, il prend Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, pardon, verset 9 à 13, et Jésus a donné là un modèle de prière. Il dit, si tu veux prier, commence par adorer ton Dieu, c'est-à-dire commence par le louer. Donc, au début de ton moment de prière, commence à dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait, comme je l'ai fait ce matin, au début de cette prédication. Ensuite, pense à l'Église, pense à la mission de Dieu. C'est ce qu'il dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Hein? Un enfant de Dieu, lorsqu'il prie, il doit prier que l'Église continue d'annoncer l'Évangile, puisque lui-même, il a été au bénéfice de l'Évangile. Puisque si sa vie a été transformée, c'est parce qu'il y a eu un chrétien, c'est parce qu'il y a une Bible, c'est parce qu'il y a un événement qui a été créé, qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Donc, il doit prier pour que ça continue, pour que d'autres aussi entendent, soient touchés, soient transformés. C'est ça, se soucier des choses de Dieu, que ta volonté soit faite au ciel comme la terre. Et puis enfin, les requêtes. Dieu sait qu'on a des besoins. Et la prière est là pour ça. Seigneur, voici, voilà. Et on prie, on intercède, on demande. Dieu est un Dieu qui aime qu'on lui demande. Et puis enfin, la protection. Protège-nous. Garde-nous de céder à la tentation. Garde-nous de nous éloigner de toi. Garde-nous des pièges de l'ennemi. Garde-nous de tomber sous l'adversaire, le diable. Protège-nous. C'est Jésus qui dit, donc ne prenez pas ça à la légère. Dans la prière, il faut aussi prier comme ça. Puisque c'est Jésus lui-même qui nous dit, voici ce qu'il faut demander. La Bible dit que notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Ça ne doit pas nous faire peur, puisque Jésus nous a donné la solution. Il dit la solution, c'est de prier Dieu. Garde-nous, protège-nous, repousse l'ennemi. L'avant-dernier point, c'est l'accueil, bien-aimé. C'est pour ça que j'ai lié ça au pardon, l'accueil. Romains 15, verset 7. Il dit, accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Donc, si je lis un peu plus haut, à partir du verset 5 de Romains 15, dit que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un même cœur, d'une même voix, vous célébrez la gloire de Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Voici en effet ce que j'affirme. C'est d'abord que le Christ est venu se mettre au service des Juifs. Donc là, il fait une démonstration. Il dit, Jésus est venu, il a aimé les Juifs. Mais il a aimé aussi les non-Juifs. Et ce qu'il a fait, c'est que finalement, il n'y a plus de race. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus Juifs et non-Juifs. Et il dit, puisqu'il n'y a plus Juifs et non-Juifs, vous devez vous aimer les uns les autres. L'amour de Dieu transcende nos diversités. Il dit, accueillez-vous. Le mot accueil veut dire que je suis bien disposé vis-à-vis de Sarah et que, parce que je suis bien disposé, ben, si Dieu nous met ensemble pour faire des choses, on les fera ensemble pour la gloire de notre Dieu. Accueillir, c'est ça. Accepter que l'autre est comme moi, que l'autre a une dignité, que l'autre n'est pas moins que moi, que l'autre est mon égal, peu importe sa classe sociale, peu importe sa couleur de peau, peu importe d'où il vient. Ça, c'est un défi pour l'Église, hein, parfois. C'est un défi pour l'Église, parfois. Tout être humain, n'oubliez pas, a besoin de se sentir accepté, accueilli. Dans une société où les gens s'isolent de plus en plus, les gens ont besoin de se sentir accueillis, acceptés pour ce qu'ils sont. Pas pour ce qu'ils ont. Hein? Pas pour ce qu'ils ont, mais pour ce qu'ils sont. Et c'est important, bien-aimé. Parce que c'est comme ça que nous communiquons de bonnes valeurs à nos enfants. Si nos enfants comprennent que c'est ce qu'ils ont qui vont faire leur valeur, bah, on a une société en perdition. Mais si nos enfants comprennent que c'est ce qu'ils sont qui fait leur valeur, bah, ils vont construire ce qui leur est avec des valeurs. Avec des valeurs. Enfin, notre présence de qualité. Pourquoi cette présence est importante? Bien-aimés, Dieu nous a pris pour ses ambassadeurs. Les chrétiens sont les ambassadeurs de Christ. Vous savez ce que c'est qu'un ambassadeur? Un ambassadeur, à lui seul, il représente son pays dans un État. C'est incroyable. Hein? Un seul monsieur représente à lui seul son pays. L'ambassadeur des États-Unis en France représente à lui seul les États-Unis en France. Donc, les actes qu'il pose engagent les États-Unis. C'est pour ça que les gens sont un peu rigoureux avec les familles d'ambassadeurs. Parce que tout ce que la famille de l'ambassadeur va faire, bah, ça a des répercussions diplomatiques. Et Dieu dit que nous, les chrétiens, nous sommes ses ambassadeurs dans le monde. C'est-à-dire, où que nous soyons, nous représentons Dieu. C'est fort, hein? Ça nous donne une responsabilité qui, oh là 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 là, moi, je n'ai pas envie de représenter Dieu. Mais pourquoi tu n'as pas envie de représenter Dieu? Dieu, il a un projet d'amour pour l'humanité. Tu n'as pas envie d'être un ambassadeur de l'amour de Dieu? Comme je l'ai dit, le commandement de Dieu, c'est pas, ne fais pas le commandement de Dieu, c'est j'ai un projet de bonheur et de bénédiction. Moi, je veux être cet ambassadeur-là. Celui qui, au-delà de mes paroles, mais qui dans ma façon de vivre avec les gens qui ne connaissent pas Dieu, vit l'amour de Dieu. Laisse l'enseignement de Dieu le pénétrer et les gens puissent le voir. Parce que dans mes conversations avec les gens, ce qui va me motiver, moi, ce sont mes valeurs spirituelles, mes valeurs mentales, mes valeurs morales qui me viennent de la parole de Dieu. Dans mon comportement, c'est ce que Dieu m'impacte qui va se manifester de plus en plus dans mon comportement. Et même que je vais prier pour des gens que je ne connais pas, je vais prier pour des amis, je vais prier pour une connaissance qui va me dire, ah, écoute, j'ai traversé ça, ben, écoute, je vais prier pour toi. Ah ouais, ben, c'est gentil. Ben oui, je vais prier pour toi. Et les gens sont étonnés à chaque fois que tu dis ça. Parce qu'ils se disent, oh là là, il ne me connaît pas, mais il veut prier pour moi. Ça les touche. Et certains vous disent, ça me touche vraiment ce que tu dis là. Et la prière est là pour ça. C'est pour ça que quand nous nous réunissons pour prier ici, nous prions pour tous les sujets. Pour des gens même que nous ne connaissons pas, mais qu'un frère, une soeur connaît, un collègue, un ami. Et nous prions avec conviction parce que nous croyons que nos prières, c'est ça notre présence, bien-aimée. Nous voulons être une église présente. Et ce texte qui dit, Matthieu 5, 14 à 16, vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tous les hommes. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Nous voulons être une église qui brille avec sa lumière. Nous voulons être des chrétiens qui brillent avec notre lumière. Des chrétiens rayonnants, des chrétiens rayonnantes. Psaume 37, verset 4 dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si c'est dans la volonté de Dieu, bien sûr. Nous voulons être une église rayonnante. Vous savez ce que les gens disaient de l'église des Actes des Apôtres? Ils disaient, quelle église pieuse, quelle église joyeuse, quelle église chaleureuse. Lorsque d'autres personnes venaient dans cette église et qu'ils rejoignaient cette communauté, ah ben, ils étaient contents de trouver là un petit écrin du projet d'amour de Dieu. Que Dieu nous aide. C'est ce que nous voulons être. Alors, fais ce bilan, la qualité de l'amour, de ton projet d'amour. Fais ce bilan, la qualité de la façon dont tu considères les enseignements de la parole de Dieu. Fais ce bilan, la qualité de ta vie de prière, que ce soit individuelle, que ce soit familiale, que ce soit dans l'église. Fais ce bilan, la qualité de ton accueil. Comment est-ce que tu accueilles les choses de Dieu? Comment est-ce que tu vis dans la relation à l'autre? Fais ce bilan, une présence de qualité. Comment est-ce que tu es présent? Toi, en tant que chrétien, là où tu vis, on l'a toujours dit dans nos prédications dans cette église, il ne s'agit pas d'être des hypocrites, il ne s'agit pas de sourire alors que ça ne fait pas rire. Non, il s'agit juste de dire, en tant que chrétien, nous voulons être authentiques, mais montrer que Dieu nous donne la force parfois de transcender les situations qui nous dépassent. Et que même quand il arrive des contrariétés, ben on est des êtres humains, on est en colère, on est fâché, on n'est pas content, mais on ne reste pas sur ce moment-là. Parce qu'il y a un moment après la colère. La colère ne dure pas toujours. Le mécontentement ne dure pas toujours. Et le chrétien, c'est ça. Ça, il y a un avant, mais il y a aussi un après. Parce que Christ est mort et il est ressuscité. L'Éternel est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui est ma force. Alors, si vous n'avez rien retenu du tout, retenez simplement que ces cinq aspects sont importants. L'amour, l'enseignement de la parole de Dieu, la qualité de votre vie de prière, la façon dont vous considérez les autres, donc l'accueil, et vous êtes des ambassadeurs en tant que chrétiens. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu, dans le bon sens du terme. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble et qu'il nous aide à continuer d'avancer avec cette grâce. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est bon pour qui il est bon. Ta bienveillance, ô Éternel, que Dieu nous bénisse.